Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Bonjour Régis.
Bonjour, bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, alors ce mois-ci, je vais vous parler du Qatar, des enfants ouïghours, du Yémen, hein, qui est toujours d'actualité, hélas, du Covid-19, et puis des civils dans les conflits. Et on terminera par les activités minimes, mais quand même, du groupe dinois d'Amnesty International. Voilà, et puis au niveau musique, on va écouter Hélène Martin, qui est décédée il n'y a pas longtemps, et qui n'est pas tellement connue, alors qu'elle avait une voix extraordinaire. Et puis on écoutera Moustaki, qui est Camille Lelouch. Voilà, alors pour commencer, tout d'abord, ben, on a une bonne nouvelle, nous les défenseurs des droits humains, c'est d'apprendre que l'État de Virginie a aboli la peine de mort. Donc, vous savez que l'abolition de la peine de mort aux États-Unis, c'est État par État. Et donc, c'est le premier État du Sud. Hein, c'était les États du Sud, donc, étaient esclavagistes, hein, vous savez. Et donc, c'est le premier État du Sud, la Virginie, à abolir la peine de mort. Donc, c'est un grand progrès. Ça devient le 23e État parmi tous les États des États-Unis, à abolir cette peine de mort, et le premier pays État du Sud. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, les abolitionnistes. Voilà, alors je vous parle du Qatar, parce que les matchs de qualification de la Coupe du Monde ont commencé. Et le Qatar, qui a obtenu cette Coupe du Monde, continue d'exploiter et de maltraiter les travailleurs et travailleuses migrants. Sans véritable action, cet événement sportif sera largement terni, comme l'avait été la Coupe du Monde en Argentine, vous vous souvenez, au temps des dictatures. Le Qatar a introduit un certain nombre de réformes prometteuses ces dernières années, en partie en réaction à l'intérêt croissant qu'il a commencé à susciter après avoir remporté le contrat de la Coupe du Monde. Trop souvent, malheureusement, ces réformes ne sont pas correctement appliquées et des milliers de travailleurs et travailleuses migrants continuent d'être exploités et maltraités. Récemment, le Conseil consultatif du Qatar a présenté un ensemble de recommandations qui, si elles étaient suivies par le gouvernement, reviendraient sur une grande partie des avancées permises par les réformes, notamment en rétablissant les restrictions du droit des travailleurs de changer de travail et de quitter le pays. Cette Coupe du Monde ne serait tout simplement pas possible sans les travailleurs migrants qui représentent 95% de la main-d'œuvre au Qatar. Des stades, aux routes, en passant par l'hôtellerie, la restauration, les services de sécurité, le succès de la Coupe du Monde dépend du travail d'hommes et de femmes qui ont parcouru des milliers de kilomètres afin de subvenir aux besoins de leur famille. Quand la FIFA, Fédération internationale de football, a décidé que la Coupe du Monde se tiendrait au Qatar, elle savait que des risques existaient sur le terrain des droits humains, car ce pays dépend fortement des travailleurs migrants. Et le fonctionnement du marché du travail sur place favorise l'exploitation. En outre, en tant qu'instance organisatrice, la FIFA est tenue, selon les normes internationales, de limiter les risques liés à cette compétition sur le terrain des droits humains. Cela inclut les risques pesant sur les employés d'industrie, tels que l'hôtellerie et le transport, qui se sont très fortement développés en prévision des matchs. Les qualifications de cette semaine nous rappellent que la FIFA n'a plus beaucoup de temps pour influer sur les décisions du Qatar. Par exemple, nous avions révélé en 2020 que des ouvriers de la construction travaillant sur le stade d'Al Bayt, un projet de 770 millions d'euros, n'avaient pas été payés pendant des périodes allant jusqu'à 7 mois. Nous saluons les mesures adoptées par la FIFA ces dernières années dans le but de prendre ses responsabilités, notamment l'établissement de sa politique des droits de l'homme en 2017 et la stratégie de développement durable pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La FIFA s'est engagée à laisser derrière elle des normes et pratiques de calibre mondial pour les travailleurs et travailleuses au Qatar et au niveau international. Cependant, la persistance de graves violations au droit du travail au Qatar montre qu'il reste encore beaucoup à faire. En 2020, la FIFA nous a déclaré que le contrôle quotidien du respect des droits des ouvriers de la construction est l'affaire du Comité suprême, l'organe de gouvernance. L'insuffisance de cette approche non interventionniste a été mise en évidence lorsque nous avions révélé que des travailleurs n'avaient pas été payés. Le Comité suprême avait connaissance de cet état de fait depuis près d'un an, mais la FIFA a admis qu'elle n'avait pas été informée de la situation, ce qui montre que la fédération a besoin d'être beaucoup plus assidue concernant le suivi indépendant relatif au site de la Coupe du Monde. Notre appel, donc lundi 15 mars, nous avons écrit à la FIFA pour lui demander d'assumer ses responsabilités en matière de droits humains à l'échelle internationale. En vertu des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations Unies, la FIFA doit garantir que les droits humains soient respectés dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde. La FIFA a en particulier le devoir de garantir que les torts causés aux travailleurs et travailleuses dans le cadre de projets liés à la Coupe du Monde jusqu'à présent soient réparés en collaboration avec les autorités du Qatar et les autres parties intéressées. D'autant plus que le Qatar n'est pas vraiment un pays pauvre. Voilà, alors on va écouter une chanson d'Hélène Martin qui nous a quittés. Ça s'appelle « Liberté femme ». Ça parle donc de femmes. Et il y a un lien avec notre département puisque Hélène Martin était l'amie de Lucien Jacques. Lucien Jacques qui était un poète, aquarelliste, un artiste qui le premier a édité Giono. Et d'ailleurs, dans la chanson, si vous écoutez bien, il parle de Lucien qui a... Elle parle de Lucienne Desnoux, qui est une poète de notre région, et que c'est Lucien, et donc c'est Lucien Jacques, qui les a mis en relation. Voilà, on écoute « Liberté femme ».
De vous chanter, voici le temps, mais je me trouve étrangement intimidée. Et pour mieux vendre la vérité, de quelle manière vais-je m'y prendre? Par le grinçant ou bien le tendre? Il m'était venu le désir de vous léguer mon avenir. Cela ne s'est pas encore fait, vous léguer ce que déjà vous possédez, ce que peut-être vous possédez. J'ai cru en vous autant qu'en moi, j'ai cru en vos chants, vos émois. Nous avons pris, qu'on se le dise, nous avons pris le même train de marchandises des fabricants de roublardises. Liberté femme, liberté flamme. Je lègue à l'ami Francesca cette énergie que je n'ai pas, et elle s'en fout. La seule ville ayant beaucoup, beaucoup de force qui fusille, bien trop de force qui fusille. Et je laisse à Anne Sylvestre mon solide appétit terrestre dont elle n'a cure. Car par travaux et par nature, elle a, je crois, tout ce qu'il faut. Elle a presque tout ce qu'il faut. Je donne à Colette Magny tout le militant de ma vie. Donc croyez-moi, elle se balance, nous n'avons pas le même cri, mais bienveillance. Avons-nous de la bienveillance? Liberté femme, liberté flamme. Ta belle voix dont tu nous sèves, qu'en fais-tu, amie Christine Sèvres? Où l'as-tu mise? Dans quel bistrot, dans quelle remise? Ta mise, ton guerriero, Est-ce le droit d'un guerriero? On ne tutoie pas Barbara, elle est fière la Baccara, et je cède à ce beau diable le roucide. Nos cornemuses un peu semblables, nos cornemuses inconciliables. Dis-moi un peu, la Morelli, qui toujours chante la lali des cœurs perdus. Dis si je peux, comme le pendu, t'écrire la chanson des gueux. Chanterais-tu mon chant frileux? Libère tes femmes, libère tes flammes. Tu n'es pas chanteuse, Angela, mais le vrai est dans ce chant-là que tu défends, que tu inventes, que tu apprends à tes copains de la tourmente et à nos frères de la tangente. Je te lègue ma résistance et j'y ajoute ma constance et le merci qui te revient sans ironie. Tu me donnes le goût du bien quand prédomine la rime en rien. Item à Lucienne des nous. Et je me souviens du jour où l'ami Lucien nous présenta, et ce fut bien le plus fameux, etc., de l'amitié sans errata. Libère tes femmes, libère tes flammes. Coup de chapeau, mes héroïnes, qui différemment me fascinent, Nina Simone et Suzanne Flon, encore Simone. Mais s'ignorer fait pas légion, Marthe Robert, toute version. Et celle à ne pas oublier, qui avant moi se sont lassées, de Louise Labbé à Louise Michel, Bessie Smith, et tous les blues qui portent des ailes. Hommage à la franche pucelle. Et femme, femme, j'en oublie, pardonnez-moi, vous, mes amis, des mauvais jours, les trottes rues à faire l'amour. Je vous chante et je vous salue, puisque sans vous, rien ne va plus. Libère tes femmes, libère tes flammes.
Voilà, Hélène Martin, très belle voix à découvrir ou redécouvrir. Maintenant, je vais vous parler des enfants ouïghours qui sont détenus et séparés de leur famille. Amnesty a mené une enquête qui donne la parole à ces parents ouïghours qui sont exilés et dont les enfants sont détenus dans des orphelinats, entre guillemets, des orphelinats d'État dans la région chinoise du Xinjiang. La campagne impitoyable de détention massive que la Chine mène au Xinjiang a mis les membres de familles séparées dans une situation impossible. Les enfants ne sont pas autorisés à partir, mais leurs parents risquent de subir des persécutions s'ils tentent de rentrer pour s'occuper d'eux. Ils pourraient notamment être placés en détention arbitraire ou envoyés dans des camps d'internement à des fins de rééducation. Nous sommes entretenus avec 6 familles ouïghours vivant actuellement en exil en Australie, au Canada, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie. Ces familles ont quitté la Chine en 2017, avant l'intensification de la répression contre les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes. Depuis, elles sont totalement coupées de leurs enfants, âgés de 5 ans à peine pour certains. Leurs témoignages poignants donnent un aperçu de l'ampleur des souffrances endurées par toutes ces familles ouïghours. Depuis 2017, on estime qu'au moins 1 million de personnes ont été placées arbitrairement en détention dans des centres de transformation par l'éducation ou de formation professionnelle, comme ils appellent, au Xichang. Elles y subissent diverses formes de torture et de mauvais traitements, y compris un endoctrinement politique et une assimilation culturelle forcée. Les Ouïghours installés à l'étranger hésitent souvent à parler publiquement des atteintes aux droits humains dont ils sont victimes, car ils craignent que leurs proches restés en Chine fassent l'objet de représailles. Malgré ces difficultés, ses parents ont décidé de partager publiquement leur histoire dans l'espoir que cela les aide à retrouver leur enfant bientôt. Miriban Kader et Ablikim Mentina ont fui le Xichang pour l'Italie en 2016 après avoir été harcelés par la police et avoir subi des pressions visant à les contraindre à restituer leur passeport. Ils ont confié temporairement leurs 4 enfants à leurs grands-parents, mais peu de temps après, la grand-mère a été emmenée dans un camp et le grand-père interrogé par la police. Nos autres proches n'osaient pas s'occuper de mes enfants après ce qui était arrivé à mes parents. Ils avaient peur d'être envoyés dans des camps eux aussi. L'aîné a été envoyé dans un pensionnat, les 3 plus jeunes enfants dans un camp pour orphelins. Miriban et Ablikim n'ont pas pu entrer en contact avec eux depuis l'Italie, mais en novembre 2019, ils ont obtenu du gouvernement italien l'autorisation de faire venir leurs enfants. Les 4 enfants ont voyagé seuls à travers la Chine pour rejoindre le consulat italien à Shanghai, mais ils ont été arrêtés par la police et renvoyés à l'orphelinat et au pensionnat. Maintenant, mes enfants sont entre les mains des autorités chinoises et je ne suis pas sûr de les revoir un jour, a dit Miriban. Le plus douloureux, c'est que pour mes enfants, c'est comme si leurs parents n'existaient plus, comme si nous étions décédés et qu'ils étaient orphelins. Nous n'avons pas entendu la voix de nos filles depuis 1594 jours. Ma femme et moi ne pleurons que le soir pour essayer de cacher notre chagrin à nos autres enfants qui sont là avec nous. C'est ce que nous a confié Omer, un parent exilé. Omer et Meryem Farou, quant à eux, ont fui vers la Turquie à la fin de l'année 2016, après que des policiers exigeaient qu'ils leur remettent leur passeport. Le couple a confié ses 2 plus jeunes enfants, âgés de 5 et 6 ans, à leurs grands-parents. Omer et Meryem ont découvert par la suite que leurs proches avaient été emmenés dans des camps. Depuis lors, ils n'ont plus aucune nouvelle de leur enfant. La séparation des familles au Xinjiang montre les efforts inhumains que déploie la Chine pour contrôler les Ouïghours et d'autres minorités musulmanes au nom, soi-disant, de la lutte contre le terrorisme. La Chine doit mettre fin aux mesures qui restreignent le droit de toutes les minorités d'entrer et de sortir librement du pays. Elle doit fermer tous les camps de rééducation politique et libérer les détenus immédiatement, sans conditions et sans préjugés. Nous appelons le gouvernement chinois à autoriser pleinement et sans restriction les experts des Nations Unies en droits humains, les chercheurs indépendants et les journalistes à se rendre au Xinjiang pour enquêter sur la situation dans la région. Parallèlement, nous engageons les autres gouvernements à faire tout leur possible pour que les Ouïghours, les Kazakhs et les autres minorités ethniques chinoises résidant dans leur pays bénéficient d'une assistance pour tenter de localiser, contacter et retrouver leurs enfants. Voilà cette terrible situation que la Chine fait subir aux Ouïghours. On va maintenant écouter une chanson d'Hélène Martin, toujours. Elle a mis en musique un texte de Jean Genet qui s'appelle « Le condamné à mort ». Jean Genet qui a fait de la prison pour vol et qui avait rencontré justement un condamné à mort. Et c'est un texte donc ancien, mais qui parle aussi, vous savez que Jean Genet était homosexuel, et donc il parle justement de cet amour homosexuel, donc une chanson d'avant-garde pour l'époque surtout. On écoute Hélène Martin, Le condamné à mort.
Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve, effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer des prés l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort, mais viens pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. On traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits. Des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Voilà, encore une belle chanson d'Hélène Martin. Hein. Je vous invite à aller un peu écouter son répertoire. On va maintenant écouter Marion Séclin qui nous parle au nom d'Amnesty des civils dans les conflits, hein, puisque de plus en plus, les conflits s'en prennent aux civils, ce qui n'était pas le cas au siècle dernier. Hein. Mais ça s'est accentué au fur et à mesure. La Première Guerre mondiale, c'est beaucoup des militaires qui sont morts. Et puis déjà dans la Seconde Guerre mondiale, on s'en est pris aux civils avec des bombardements de villes, etc. Et ça s'est accentué énormément. Et les civils sont des objectifs militaires alors qu'ils devraient être protégés, comme le disent les lois de la guerre, parce qu'il y a des lois, soi-disant, dans la guerre, mais qui ne sont pas respectées. Voilà, donc on écoute... ce reportage, Les civils dans les conflits.
Voir pour comprendre, les civils dans les conflits. En juillet 2017, les forces de la coalition internationale contre l'État islamique célébraient la chute de Mossoul. Une victoire militaire payée au prix fort par la population civile. Plusieurs milliers de morts, 15 000 blessés, plus d'un million de personnes déplacées, les habitants de Mossoul, après avoir vécu l'enfer de l'occupation djihadiste, ont aussi subi pendant 9 mois celui de la libération. Les civils sont régulièrement en première ligne dans les conflits armés. Même si la guerre ne doit pas être une zone de non-droit et que certaines des lois qui la régissent veillent à épargner les civils, la réalité est tout autre. Ils sont de plus en plus menacés. La multiplication des conflits internes et des combats en zone urbaine contribue à l'aggravation de leur situation. Les chiffres sont sans appel. Selon l'ONU, les victimes civiles en temps de guerre sont passées de 5% des pertes au début du XXe siècle à 15% pendant la Première Guerre mondiale, puis à 65% à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour culminer à 90% lors des conflits armés des années 90. Il faut bien comprendre ce que l'on entend par civil. C'est tout simplement une personne qui ne participe pas aux hostilités. Les religieux, les médecins, les journalistes qui interviennent sur les zones de conflit sont aussi des civils. Ainsi, même un membre des forces armées, s'il ne prend plus part au combat, parce qu'il est blessé ou parce qu'il capitule, est un civil. Les maisons, les immeubles, les hôpitaux, les écoles, les bâtiments administratifs, bref, tout ce qui fait le quotidien des civils et qui n'a pas de rôle militaire doit aussi être épargné. On les appelle les biens de caractère civil. Revenons à Mossoul. Les civils ont été littéralement pris au piège par les différentes parties du conflit. L'État islamique les a systématiquement utilisés comme boucliers humains et les a empêchés de fuir. les forces irakiennes, en installant ponctuellement leurs snipers sur les toits des habitations libérées, sans évacuer les civils, les ont transformés en cibles. Des civils ont été tués ou blessés par des tirs de mortier effectués sans discrimination dans des zones fortement peuplées. À cela s'ajoutaient les bombardements incessants de la coalition dirigée par les États-Unis. Par exemple, le 17 mars 2017, plus de 100 personnes ont été tuées par une frappe aérienne à l'ouest de Mossoul. L'enfer de la guerre pour les civils, ce n'est pas seulement la mort lors des combats. C'est aussi l'horreur des disparitions forcées, de la détention arbitraire, de la torture. Ces méthodes utilisées dans les pires régimes répressifs se généralisent dans de nombreux conflits, en particulier pour opprimer les opposants politiques et terroriser la population. Du jour au lendemain, l'un des vôtres disparaît, vous êtes sans nouvelles de lui des mois durant, les autorités nient être au courant de la situation, et au final, vous ne le reverrez jamais, ou si par miracle il réapparaît, vous découvrirez le récit de ses tortures. Voilà, c'est ça les disparitions forcées. Par exemple, en Syrie, depuis le début du conflit en 2011, des dizaines de milliers de civils, présumés opposants au gouvernement, ont fait l'objet d'arrestations arbitraires et ont été systématiquement torturés dans des centres de détention. Les civils subissent également des violences sexuelles, des pratiques barbares utilisées en représailles pour torturer et susciter la peur. C'est comme ça qu'au Soudan du Sud, des milliers de femmes, des filles et des hommes ont été violés et agressés sexuellement à cause de leur appartenance ethnique. Les conflits entraînent aussi des déplacements massifs de population. Contraints de fuir les combats, les civils sont jetés sur les routes, sans protection, sans perspective d'avenir. À ce jour dans le monde, plus de 50 millions de personnes ont été déplacées de force, la plupart à cause d'un conflit armé. Il faut savoir que 80% de ces déplacés sont des femmes et des enfants. Toutes ces populations civiles menacées, jetées hors de chez elles ou piégées en zone de combat, dépendent souvent de l'aide humanitaire pour survivre. En Syrie, les sièges de longue durée privent la population de nourriture et de médicaments. Des Syriens souffrent et meurent parce que la famine est utilisée comme une arme de guerre, tant par le gouvernement que par les groupes armés impliqués dans le conflit. Et pourtant, tout est prévu pour protéger les civils dans les conventions de Genève, les traités internationaux fondamentaux du droit international humanitaire. Ces conventions fixent les règles de conduite à adopter en période de conflits armés, et notamment la protection des civils, des membres d'organisations humanitaires, des blessés ou encore des prisonniers de guerre. Ces textes sont catégoriques. Toute attaque délibérée contre des civils ou des biens de caractère civil est un crime de guerre. Si cette attaque se fait à grande échelle pendant de longues périodes et si elle est systématique, c'est un crime contre l'humanité. Tous les États ont signé ces conventions et elles sont donc universellement applicables. En résumé, c'est indiscutable. Tout le monde est d'accord et tout le monde doit les respecter. Comment cela devrait-il fonctionner ? La protection des civils et des biens à caractère civil repose sur trois grands principes. La distinction, la précaution et la proportionnalité. La distinction, cela signifie que toutes les parties du conflit doivent faire la distinction entre objectifs militaires et biens de caractère civil. Les armes qui ne peuvent pas faire cette distinction au moment de leur utilisation sont interdites. Ce principe prohibe par exemple les bombardements aériens indiscriminés. La précaution s'applique lorsqu'une opération militaire fait peser des risques sur les civils. Elle doit être alors conduite selon des dispositions particulières. Comme par exemple, choisir le moment de l'attaque pour minimiser les pertes. Avertir à l'avance les civils, si c'est possible. Arrêter les opérations si leur impact sur la population est disproportionné. Enfin, la proportionnalité autorise l'usage de la force militaire à condition que l'impact sur les civils ne soit pas disproportionné par rapport à l'avantage militaire attendu. Pourtant, la réalité est tout autre.
Il était 7h30. Nous prenions tous notre petit déjeuner lorsque j'ai entendu un sifflement et une roquette est tombée au beau milieu de la pièce sur ma tante. Elle a été tuée sur le coup. Le feu a commencé à s'étendre et j'ai vu sa main voler. La maîtresse de maison a également été tuée sur le coup. Mes deux enfants ont été blessés et un bébé assis sur les genoux de sa grand-mère a eu le bras arraché. Les combattants de l'État islamique, postés juste derrière la porte, ne nous ont pas laissé sortir pour nous occuper des blessés ou enlever les corps. Nous les avons emmenés à la porte de derrière. Nous avons dû attendre 2 jours pour pouvoir transporter nos blessés à l'hôpital. Mes enfants et mon époux sont là-bas et je suis coincée dans le camp, sans autorisation d'en sortir. Je suis tellement inquiète pour eux.
C'est clair, toutes les lois sont là pour protéger les civils et pourtant leur situation est catastrophique. Il est inadmissible que leur souffrance ne soit pas traitée avec sérieux et détermination. La communauté internationale se montre scandaleusement absente. Les gouvernements doivent cesser d'affirmer que la protection des civils n'est pas de leur ressort. Pour leur venir en aide et pour les protéger, il faut agir à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur le terrain, pour les prendre en charge en temps réel, comme le font de nombreuses organisations. Et puis, il faut aussi intervenir auprès de nos gouvernements et des instances internationales pour que la guerre cesse d'être une zone de non-droit. Et pour cela, le droit international humanitaire devrait être une frontière absolument infranchissable pour ne pas sombrer dans la barbarie. Pour défendre des intérêts particuliers ou par pur opportunisme politique, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est montré jusqu'à présent incapable de résoudre les conflits qui ont déchiré la Bosnie-Herzégovine, le Myanmar, Israël et la Palestine, la Syrie et l'Ukraine. Alors que des États ou des groupes armés se sont rendus coupables de crimes atroces sur des civils. L'usage systématique du droit de veto ne permet pas à la communauté internationale de disposer pleinement des instruments nécessaires pour protéger les civils. Un pas décisif serait fait avec l'encadrement de ce droit de veto en cas d'atrocité de masse. Ainsi, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité feraient clairement comprendre aux responsables que le monde ne restera pas les bras croisés. Pour construire un avenir où les civils seront enfin réellement protégés, il est également crucial que les auteurs des infractions commises contre les civils soient jugés. Sans quoi les criminels continueront à commettre leurs exactions en toute impunité. Ce sont les instances de justice internationales et nationales qui doivent y veiller. Ceux qui ont ordonné ou commis des crimes en temps de guerre, comme par exemple en ex-Yougoslavie, au Rwanda ou en Sierra Leone, ont été traduits en justice. En plus d'œuvrer activement pour que les responsables des crimes de guerre rendent des comptes, il faut rappeler en permanence le droit aux décideurs. Inciter avec détermination nos gouvernements à agir face aux souffrances des civils. Rappeler avec fermeté qu'il ne faut ni vendre ni transférer d'armes à des auteurs de crimes de guerre. Accueillir sans discrimination des réfugiés qui fuient les pays en guerre. En résumé, pour protéger efficacement les civils, il est indispensable de prévenir et agir contre les atteintes au droit international humanitaire, de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, d'assurer une meilleure protection des personnes qui fuient les conflits, de mettre en œuvre le traité international sur le commerce des armes. Protéger les civils est une priorité absolue et il y a urgence car leur situation empire. Cela permet non seulement de réduire les pertes humaines, mais aussi de renforcer la capacité des pays en guerre à reprendre une vie normale et pacifiée une fois la dernière balle tirée. Nous devons rester collectivement mobilisés et individuellement indignés par cette situation insupportable, car n'oublions jamais que nous sommes tous des civils. Comme le disait René Cassin, il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés, en quelque partie du monde que ce soit.
Voilà, donc pour illustrer ce que l'on vient d'écouter, il y a une guerre qui dure depuis 6 ans et qui continue aujourd'hui. C'est la guerre au Yémen. Le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que c'était la pire crise humanitaire au monde. Et depuis 2 mois, chaque jeudi, nous nous mobilisons sur la place de la République à Paris pour dénoncer les ventes d'armes françaises aux pays impliqués dans ce conflit au Yémen. Le 25 mars dernier, c'était la date anniversaire des 6 ans de cette guerre, le point culminant de notre mobilisation. Nous étions plus d'une centaine à exiger la fin de la complicité de la France. Donc, avec Amnesty International, il y avait également l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, CAR France, la Fédération internationale pour les droits humains, Handicap International, la Ligue des droits de l'homme, Médecins du monde, l'Observatoire des armements, Oxfam, Première Urgence Internationale, Salam for Yemen, Sumofus. Tout ça pour dire, ça suffit. Les autorités françaises sont complices de la pire crise humanitaire du monde. L'accumulation de preuves de violation des droits humains au Yémen n'empêche pas les ventes d'armes françaises aux principaux pays engagés dans cette guerre. La France ne peut plus ignorer ce qui se passe là-bas. Les civils yéménites continuent d'en payer le prix. En ratifiant le traité sur le commerce des armes, la France est engagée à ne plus autoriser de transfert d'armement s'il existe un risque important que ces armes soient utilisées pour commettre ou faciliter des violations graves des droits humains et des droits internationaux humanitaires. Pourtant, la France exporte des armes vers l'Égypte, qui connaît une répression des droits humains sans précédent. Elle est également l'un des premiers fournisseurs d'équipements militaires de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, membre de la coalition engagée au Yémen et responsable de milliers de victimes civiles. Alors que la France n'a de cesse de mettre en avant son exemplarité en matière de vente d'armes, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, face à l'opacité des ventes d'armes autorisées par le seul pouvoir exécutif et l'absence de tout contrôle parlementaire véritable, personne n'est en mesure d'assurer que la France respecte ses engagements internationaux. Les États-Unis viennent de déclarer la cessation de vente d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. La France peut faire pareil et doit faire pareil. Voilà, on va écouter une chanson de Moustaki pour être un peu plus léger. Il y avait un jardin, voilà, c'était notre terre et voilà ce que les hommes en font. Espérons qu'un jour on retrouve ce jardin. Moustaki, il y avait un jardin.
C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre la scie et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères, qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la, la la la.
Où est-il ce jardin? Voilà, alors maintenant je vais vous parler du Covid-19. Alors vous allez me dire encore, parce qu'on en entend beaucoup parler hein, tous les jours à la télévision, mais je pense que ces informations sont un peu différentes. On les entend beaucoup moins. En effet, nous lançons une campagne qui s'appelle « Une dose d'équité pour un accès universel au vaccin anti-Covid-19 ». Cette campagne invite les entreprises pharmaceutiques à partager leurs connaissances et leurs technologies afin de maximiser le nombre de doses de vaccins disponibles de par le monde. Elle demande aussi aux États de se départir de tout nationalisme vaccinal et de collaborer afin de garantir que les plus exposés au Covid-19 dans tous les pays puissent avoir accès immédiatement aux vaccins propices à sauver des vies. Qui aura accès aux vaccins? Quand et à quel prix? Voici des questions particulièrement importantes et polémiques auxquelles les sociétés sont aujourd'hui confrontées. Mais les réponses sont façonnées par les intérêts des grandes puissances et des grands groupes, a déclaré Amnesty International. Ils ont jusqu'à présent créé une situation dangereuse. Les inégalités mondiales en termes d'accès aux vaccins échappant à tout contrôle. Une poignée de pays riches sont en tête, tandis que le reste du monde n'a toujours pas pris le départ. Tout le monde mérite une dose d'équité. Lorsqu'il s'agit de notre droit à la santé, il n'y a pas de place pour la discrimination. Les pays riches ont acheté plus de la moitié des stocks de vaccins, alors qu'ils ne représentent que 16% de la population mondiale. Ces mêmes pays ont administré plus de 60% des doses mondiales, tandis que 100 pays n'ont pas encore vacciné une seule personne. L'argent des contribuables a été dépensé à coups de milliards pour aider les entreprises comme AstraZeneca, Moderna, Pfizer à développer et produire des vaccins. Or, elles refusent, et ne sont pas les seules, de partager leurs recherches, leur savoir et leurs technologies. Ainsi, d'autres entreprises pharmaceutiques ne peuvent pas s'appuyer sur ces avancées de la science pour accélérer leur production de vaccins, ce qui permettrait pourtant d'augmenter les stocks et de les rendre accessibles aux pays disposant de budgets moindres. En mai 2020, l'Organisation mondiale de la santé a mis sur pied le groupement d'accès aux technologies contre la Covid-19, afin que les entreprises puissent regrouper données et connaissances et favoriser l'octroi de licences de production et de transfert de technologies à d'autres fabricants potentiels, dans le seul but de s'assurer que tout le monde, partout, ait accès aux vaccins plus rapidement. Or, pas un seul groupe pharmaceutique n'a pour l'instant rejoint le CETAP, c'est-à-dire ce groupement d'accès aux technologies. Les gouvernements doivent s'acquitter de leurs obligations en termes de droits humains et soutenir la proposition de dérogation à certaines dispositions de l'accord, traité mondial qui régit les droits de propriété intellectuelle et qui restreint bien souvent où, quand et comment les médicaments sont produits. Cette dérogation permettrait de lever l'application de brevets et de protection de propriété intellectuelle, autant d'obstacles à la production de vaccins par de nouveaux fabricants. Toutefois, si cette proposition emporte le soutien de la grande majorité des pays à revenus faibles et intermédiaires, elle se heurte à l'opposition des pays riches. Voilà cette campagne que nous lançons pour plus d'équité dans les vaccins, dans l'accès aux vaccins. Alors, je vais un peu vous parler des activités de notre groupe. Alors, bien sûr, elles sont réduites hein, puisqu'on se réunit beaucoup moins. On communique beaucoup par mail et puis on a aussi toujours beaucoup de courriers à envoyer aux chefs d'État, aux ambassades de pays qui ne respectent pas les droits humains envers telle et telle personne partout dans le monde. On va reprendre une activité d'éducation aux droits humains, si c'est possible, au niveau des lycées, en leur proposant, à partir de fin avril, des films de notre festival que nous faisons d'habitude au mois de mars. Alors on a conservé, on essaie de conserver ce volet éducation aux droits humains. Et si on a la possibilité à cette époque-là de se rendre dans les lycées, qui sont demandeurs, hein, on a le Pierre-Gilles de Gênes et le Davinel notamment, on ira faire des séances de films avec débat. Et puis on va essayer aussi de faire notre foire aux livres en mai. Donc ça sera le vendredi 21 et samedi 22 mai. On va élargir les plages d'ouverture. Donc, on ouvrira de 9h à 18h le vendredi 21, non-stop. Et le samedi, de 9h à 17h, on fermera un peu plus tôt pour avoir le temps de ranger. Voilà, donc vous pourrez venir aussi entre midi et 2. Il faudra bien sûr porter un masque et se laver les mains à l'entrée. Et on régulera pour qu'il n'y ait pas trop de personnes à l'intérieur de la salle de l'atrium, puisque ça se passera comme d'habitude, salle de l'atrium. On avait pu faire celle d'octobre, et ça avait très bien marché. Beaucoup de gens étaient venus, et ils étaient venus petit à petit. Il n'y avait pas eu de cohue, on n'avait plus eu besoin de faire trop d'attentes à l'extérieur. Voilà, on espère que ça pourra se passer comme ça, parce que les gens ont envie de lecture, envie de lire. Donc voilà, la foire aux livres d'Amnesty International, les vendredis 21 et samedi 22 mai. Voilà, on va donc terminer cette émission par une chanson de Camille Lelouch sur les violences faites aux femmes. On en parle de plus en plus, que de même, la parole se libère aussi au niveau des enfants, et c'est un grand soulagement, parce que ça fait des années qu'on en parle. Et de voir qu'enfin ça bouge, enfin on se rend compte de l'ampleur de ces violences qui sont liées souvent, hein, entre les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants. C'est pas vrai qu'un mari qui violente sa femme peut être un bon père. C'est impossible. Alors que c'était quelque chose qui était dit, qu'on a entendu souvent. Donc voilà, on se réjouit et on écoute cette très belle chanson de Camille Lelouch qui s'appelle « N'insiste pas ».
Voilà, moi je vais le faire tout à l'heure. Par contre, comment on se parle « N'insiste pas », s'il te plaît.
Ouais, j'ai bien le direct, vas-y.
Je crois être pleuré.
Ouais. C'est parti.
Allez, voilà. On est OK ?
On commence tout petit.
Ouais.
N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas, faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais. Je suis foutu, hey. Je te dis que je suis foutu. Me laisse, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. N'insiste pas, j'ai tant d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête. Tourne dans ma tête.